reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu, bienvenue pour ce nouveau Canu Info du jeudi. Ce soir, nous allons revenir sur l'état d'urgence, nous partirons aussi au Kenya. On parlera de liberté de la presse, nous aurons aussi pas mal de sujets contre la FN. On parlera d'homophobie, on parlera des profiteurs, hein, des capitalistes, et puis nous terminerons par une page plus environnementale en revenant... Entre autres, sur la COP 21, et je voulais quand même, Laurent, ouvrir ce Canu Info par deux petites infos. On a appris aujourd'hui la décision de la Cour d'appel de Paris. Monsieur Tapie devra donc rembourser la somme de, alors attendez que je ne me trompe pas, 404 623 082,54 €, somme obtenue en 2008, hein, pour mettre un terme à son petit problème avec le Crédit Lyonnais suite à la vente d'Adidas en 1994. Donc voilà. Et puis une deuxième information, aussi un petit peu chiffré, mais c'est pas ça le plus important. C'est la Cour d'appel de Paris qui a confirmé aujourd'hui la condamnation du directeur de la publication de Valeurs Actuelles, monsieur Yves Cardrel, à 2 000 € d'amende pour provocation à la discrimination envers les musulmans. On se souvient de cette couverture de l'édition du 22 septembre 2013, oui ça commence à dater, qui présentait une Marianne voilée avec un titre naturalisé, l'invasion qu'on nous cache.
La théorie de la cinquième colonne, là, et du grand remplacement, deux théories différentes.
Et on espère que mercredi prochain, la Cour d'appel rendra une décision tout aussi intéressante, puisque monsieur Cardrel cumule, hein, les petits problèmes avec la justice. Là, il avait été condamné en première instance à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine et diffamation pour un dossier devenu fameux, un dossier paru en août 2013 intitulé Rome l'overdose.
Voilà. Les grandes unes et les grands propos racistes de ce journal limite extrême droite qu'est Valeurs Actuelles. Alors on va ouvrir avec d'autres choses, ça va être beaucoup en lien autour de l'extrême droite, hein, quand même, ce qu'on fait en ce moment, que ça soit l'extrême droite elle-même, c'est-à-dire le Front National, ou les mesures d'extrême droite prises par le gouvernement, puisqu'aujourd'hui on en est là, notamment avec cette révision constitutionnelle qui est proposée par François Hollande, Manuel Valls et la clique qui est là-haut au pouvoir, puisque on a cet avant-projet de loi constitutionnelle, ils l'ont transmis, hein, au Conseil d'État qui doit la valider. Et du coup, on a les deux modifications d'articles. Et je vais les lire. Et on va essayer de comprendre et on va vite comprendre l'impact que ça peut avoir sur nos libertés. L'article premier, donc, serait rajouté à l'article 36 de la Constitution un nouvel article qui s'appelle l'article 36.1. Je cite cet article. L'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres, soit en péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre sous le contrôle du juge administratif pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de 15 jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. Lorsque le péril ou les événements ayant conduit à décréter l'état d'urgence ont cessé, mais que demeure un risque d'alerte de terrorisme, les autorités civiles peuvent maintenir en vigueur les mesures prises en application du premier alinéa pendant une durée maximale de 6 mois. La loi peut permettre, pendant la même durée, aux autorités civiles de prendre les mesures générales pour prévenir ce risque. Donc le gros changement, c'est 6 mois. Donc déjà, on est passé à 3, là on a l'état d'urgence pendant 3 mois avec pas mal de limitations des libertés individuelles et collectives. Et l'idée c'est de le passer au moins, enfin 6 mois dans la Constitution avec, on a l'impression que le Parti Socialiste rêve d'un état généralisé, d'état d'urgence infini, indéfini, permanent, etc. Alors deuxième modification, l'article 3 de la Constitution, serait ajouté un alinéa, donc un article 3-1, qui dit, je cite, « Un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française lorsqu'il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. » Voilà, la création de deux types de citoyens en France. Ceux qui ont une seule nationalité et qui, quand ils font des choses illégales, risquent les peines classiques, c'est-à-dire la prison, etc., etc. Et des citoyens qui ont une double nationalité et qui ont droit donc à une double peine. Bah oui, puisque c'est de ça dont il est question. Ils auraient non seulement la peine traditionnelle de prison et en plus ils pourraient être déchus de cette nationalité française et donc ensuite expulsé du territoire, bien évidemment, c'est de ça dont il est question derrière tout ça. Donc c'est intéressant intéressant et triste hein, de voir arriver cette double peine pour les citoyens qui auraient une double nationalité. Alors c'est une mesure préconisée depuis très longtemps hein, par le Front National que met en œuvre aujourd'hui les socialistes. Alors ils sont pas encore national-socialistes, mais enfin ils en sont vraiment pas loin du coup avec cette mesure reprise du FN. Ce qui fait quand même peur, c'est que on va se dire jusqu'où s'arrêteront-ils hein, dans la récupération des idées fascistes. Et puis même quand on lit tout ça, on se dit bon sur les actes de terrorisme, à la rigueur, tout le monde tombe pas sous le coup d'un acte de terrorisme. Et encore, les manifestations syndicales, quelquefois, hein, elles peuvent être qualifiées d'actes de terrorisme par les patrons et d'autres, voire peut-être un jour par la justice. Mais alors, aux intérêts fondamentaux de la nation. Vous savez, ce mot avec un grand N, parce que dans le texte de loi, c'est un grand N, un N majuscule. C'est quoi la nation? C'est un truc qui est quand même pas facile à définir. Est-ce que si on attaque les lois de la République, on attaque la nation? Alors on n'aurait plus le droit de critiquer des lois qui peuvent être encore racistes, homophobes, il y a eu longtemps, hein, des lois homophobes, sexistes, il y a eu des lois sexistes, il y a encore des lois sexistes. Je vous rappelle qu'il y a encore cette histoire du pantalon interdit aux femmes qui est dans la loi. Enfin, il y a encore des trucs qui sont jamais appliqués, mais qui restent. Du coup, si on critique, on a... Voilà. Donc c'est quand même, une énorme atteinte aux libertés individuelles et collectives. Et puis, deuxième info autour de cet état d'urgence, les infos d'aujourd'hui, on va dire, parce que, alors là, pour le coup, les canuts infos ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes idées, mais alors on est tous à faire des infos sur l'état d'urgence et les conséquences. Donc on va faire que celle d'aujourd'hui. On a appris aujourd'hui, ce matin, très exactement, que la préfecture du Rhône, à travers ce grand républicain, qui est a priori allergique aux libertés publiques et collectives, Michel Delpeche, qui a à nouveau interdit toute manifestation dans le centre-ville de Lyon pour ce week-end. Alors, le centre-ville, c'est 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et une partie du 7e. Donc selon ce monsieur et la préfecture, ce week-end, je cite, correspond au premier week-end d'une intense activité commerciale à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et une foule très nombreuse est attendue dans les rues commerçantes de Lyon, notamment dans le centre-ville. Il est donc nécessaire d'assurer avant tout la sécurité des personnes et des biens, de mobiliser les effectifs de l'ordre à la sécurisation des lieux commerçants. Grosso modo, ce qu'il nous dit Michel Delpeche, c'est que des manifestations citoyennes, des manifestations revendicatives, des manifestations syndicales, des manifestations manifestations du peuple sont interdites, ne sont autorisées que les manifestations commerciales. Et il le dit clairement, le peuple ne doit descendre dans les rues que pour consommer. Voilà, consommons. D'après M. Delpech, c'est la seule solution qui nous reste. Et c'est quand on fait que consommer qu'on n'a plus de démocratie, plus de liberté et plus grand-chose non plus.
Oui, et puis on pourrait ajouter que M. Gérard Collomb, notre maire, ici à Lyon, s'est donc déclaré favorable pour que les policiers et policières municipaux soient armés.
Alors lui aussi inspiré, hein, vraisemblablement, par un élu d'extrême droite qui gère la ville de Béziers, qui s'était glorifié d'avoir armé sa flicaille.
Alors, on va partir au Kenya. C'est une information que j'ai trouvée dans les pages observateurs du site de France 24. Vous le savez certainement, le Kenya a des attentats, connaît aussi des attentats. Ce sont les Chebabs. Il y avait eu un attentat au centre commercial, dans un centre commercial en 2013, 67 morts. Dans une université au printemps dernier, 147 morts. Excusez-moi. Et alors, l'État s'est dit qu'il fallait quand même agir et essayer d'organiser des exercices de prévention. Lundi, la police a donc mené une simulation dans une université de Nairobi, une université privée. Résultat, un mort, 40 blessés.
Ah, ils ont simulé, mais finalement, il y a des choses qu'ils n'ont pas simulées, quoi. Ils sont allés franco.
Alors oui, lundi à midi, des hommes armés, vêtus comme des Chebabs, ont investi l'un des bâtiments de l'université. Les étudiants n'étaient pas au courant de cet exercice, le personnel non plus, donc fuite, cris, panique.
Ah oui, c'est de la panique, ouais.
Ouais, il y a des gens qui sont réfugiés sur le toit, il y a des gens qui se sont défenestrés, il y a une femme qui est morte, comme ça, en tombant du troisième étage. Ça a été une série de tweets et autres communications sur les réseaux sociaux. Ça a duré une heure, pendant laquelle il y a eu des coups de feu, et tout ça n'était qu'un exercice. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'évidemment, là, aujourd'hui, enfin, je dis c'est dingue, je dis évidemment, hein, c'est dans la même phrase, ça fait bizarre, mais évidemment, ce n'est la faute de personne. D'après la responsable de la communication de l'université, c'est une erreur de communication, justement, bah, une erreur qui a quand même conduit à la mort d'une femme. Et en plus, elle explique que normalement, les étudiants et le personnel sont tous formés. Alors apparemment, les étudiants, eux, trouvent qu'ils n'ont pas bien été formés, hein, on leur a donné de vagues indications, globalement, qu'il fallait fuir. Hein, voilà, donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire pour certains et certaines. Encore une fois, il y a une femme qui est morte comme ça. De son côté, la police regrette un petit peu le problème, ne parle que d'incident et estime que oui, effectivement, il faudra peut-être mener une enquête pour voir ce qui n'a pas fonctionné dans l'exercice, hein, histoire de peut-être remettre ça prochainement avec un nouvel exercice.
Bah, du coup, ça a fonctionné puisqu'ils sont pris pour des, ils sont fait passer pour des terroristes et finalement ils sont arrivés à un résultat qu'auraient pu obtenir des vrais terroristes.
C'est exactement ça.
Ce qui fait peur.
Donc voilà à quoi mènent, hein, aussi ces situations.
La paranoïa.
On en vient à du grand n'importe quoi et à la mort des gens, il y a quand même 40 blessés.
Alors on va poursuivre avec la liberté de la presse, puisqu'elle recule un peu partout. Alors même si pour l'instant la France est relativement protégée, puisque par un grand hasard, ou je sais pas, une mobilisation, dans l'état d'urgence, la presse n'est pas contrôlée, contrairement à ce que voulaient 6 élus socialistes. On va parler de l'Égypte, juste pour rappeler. Aujourd'hui, il y avait le procès en appel de 6 journalistes condamnés à la prison à vie. Alors on n'a pas le résultat, c'est aujourd'hui qu'avait lieu le procès, mais qu'une nouvelle arrestation de journalistes a eu lieu avec toujours ce même motif. Hein, ça s'appelle diffusion de fausses informations. Ça c'est le premier motif qui est utilisé tout le temps. Et là, en plus, lui, il est appartenance à un groupe interdit, laissant entendre qu'il appartenait aux frères musulmans. Donc, il s'agit de Ismail Alexandrani, donc journaliste d'investigation indépendant égyptien, chercheur et spécialiste des mouvements djihadistes dans la péninsule du Sinaï. Donc, il a été arrêté le 29 novembre à l'aéroport de Hurghada. Il revenait de Berlin. Et c'est un journaliste qui est connu quand même pour ses critiques envers l'Égypte, enfin l'État égyptien, les fonctionnaires égyptiens et la tête de l'exécutif égyptien. Donc il est accusé d'avoir publié ces fausses informations et en plus d'appartenir à la confrérie des frères musulmans, ce fameux groupe interdit. Il a été interrogé par la Sûreté nationale il y a 2 jours, le 1er décembre, et depuis il est placé en détention provisoire pour 15 jours, puisque ses interrogatoires vont se poursuivre pendant 15 jours. J'espère qu'ils vont pas trop quand même le torturer. Mais ça rappelle, ça remontre que l'Égypte est vraiment basculé du côté du régime répressif et autoritaire. Qu'aujourd'hui, en Égypte, ceux qui ont du courage, celles et ceux, journalistes, qui ont du courage, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils subissent les foudres de la répression et ils finissent en prison, notamment. Et les autres, eh ben, ils font de l'auto-censure. Du coup, il n'y a plus du tout de presse libre en Égypte, ou en tout cas, difficilement. Il faut savoir quand même que Ismail Alexandrani avait aussi publié des articles dans des médias à l'étranger, notamment au Liban et puis en France, dans le monde diplomatique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment au courant des mouvements djihadistes, notamment dans le Sinaï. Effectivement, le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sissi, hein, le nouveau dictateur en chef, apprécie pas beaucoup qu'on dise la vérité sur ce qui se passe dans le Sinaï, puisqu'ils disent toujours que tout va bien. Hein, on rappelle que par rapport à l'attentat qui a fait tomber l'avion russe, jusqu'au dernier moment, ils ont dit qu'il s'était rien passé, c'était pas à cause d'eux qu'il y avait un incident technique. Alors que depuis, on sait a priori plus ou moins de manière sûre, mais presque, que c'est bien une bombe qui aurait explosé dans l'avion. Donc voilà, alors l'Égypte aujourd'hui a beaucoup reculé dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Ils sont 158e sur 180. Pourtant, l'Égypte reste l'ami de François Hollande, des Américains et de pas mal de monde. C'est ce qui est relativement triste. Et on rappellera que, parce qu'il faut pas glorifier non plus le gouvernement précédent, hein, de Monsieur Morsi, qui lui aussi aimait pas tant la liberté d'expression que ça, puisqu'il y avait quand même eu des pressions, etc. Mais pour faire bonne figure, il avait un peu calmé le jeu. Ah bah là, du coup, Monsieur Sissi calme pas du tout le jeu. Et puis, deuxième information sur la liberté de la presse. C'est Israël, qui est aussi un pays qui régresse beaucoup, hein, sur la liberté de la presse, notamment quand il s'agit de presse palestinienne, bien évidemment, puisqu'on avait appris, hein, la fermeture de la radio Al-Khalil à Hébron, en Cisjordanie, c'était le 21 novembre. Ils sont accusés d'incitation à la violence. Alors c'est pareil, là, c'est toujours le même type d'incitation, d'accusation, c'est incitation à la violence. C'est simplement quand ils parlent des agressions, comme aujourd'hui, il y a eu encore une agression au couteau, par exemple, et l'agresseur a été tué par l'armée ou la police. Ben voilà, c'est finalement quand on parle de ça et qu'on ne critique pas directement le Palestinien désespéré qui a commis cet acte-là, on est accusé d'incitation à la violence. Donc les locaux ont été perquisitionnés, la radio fermée pour 6 mois. C'est la deuxième radio interdite à Hébron depuis novembre. Et puis, le 29 novembre, donc il y a quelques jours, l'armée israélienne a fermé une troisième radio palestinienne, toujours à Hébron, et toujours pour les mêmes motifs d'incitation à la violence. C'est la radio Dream, donc, qui a subi cette perquisition militaire. Perquisition militaire, hein, ils rentrent, ils cassent tout, et ce qu'ils cassent pas, ils l'enlèvent. Hein. Du coup, c'est très difficile pour une radio de se remonter après, même si elle n'était pas interdite. Hein. Ce qu'on sait, hein, c'est que d'autres médias en Cisjordanie aujourd'hui sont menacés par l'État israélien. L'État colonisateur, hein, puisque la Cisjordanie n'est pas censée être sous le joug israélien, bah, certaines parties, certaines zones, comme c'est le nom officiel, le sont. La radio Al-Nas à Jenin a été mise en garde par l'armée israélienne, pareil pour le même motif. La radio One et la télévision Watan TV, qui sont à Ramallah et qui émettent depuis Hébron, font elles aussi l'objet de mesures de fermeture par l'armée israélienne. Enfin voilà, grosso modo, depuis un certain nombre de mois, on va dire depuis un mois et demi, presque 2 mois, la répression s'abat beaucoup sur les médias palestiniens de la part de l'armée et donc du gouvernement israélien. Ils autorisent, hein, des règles qui datent de 1945, notamment ces arrestations arbitraires qui sont issues de l'état colonial britannique, hein, qui occupait la Palestine historique, et qui permettent notamment la détention administrative de suspects, hein, pour une période indéfinie, sans procès, sans intervention d'avocat, sans recours à de la justice, hormis les juridictions militaires. Et aussi, ces règlements-là, qui datent de 45, permettent aussi la censure des médias, certaines publications, que ce soit des publications écrites ou des télés ou des journaux. Aujourd'hui, Israël a beaucoup reculé, je le disais tout à l'heure dans le classement de Reporters sans frontières, puisqu'ils sont 101e pays sur 180. Donc ils font partie de la moitié des pays les plus répressifs pour la presse. Alors après, ils ont beau se targuer d'être une démocratie, ça fait quand même bien rire quand on est classé 101e sur 180.
Alors on va ouvrir une page No Pasaran, nous allons parler de résistance contre le FN et je vais ouvrir cette page No Pasaran avec une réaction du monde de l'art, des plasticiens, de l'art contemporain. C'est assez rare, alors il faut dire que Madame Le Pen les a un petit peu provoqués. Elle leur a écrit un joli courrier, deux pages avec une en tête, en couleur, on voit la tête de Madame Le Pen. Alors, je vais vous lire quelques extraits de ces deux pages. C'est un peu long, mais j'estime qu'il faut arrêter de raccourcir les propos du FN. Par contre, attention à la démagogie, donc vous risquez d'avoir quelques remontées acides, hein, prévoyez la bassine à vomir. Alors, elle nous explique dans ce courrier. Dans le cadre de la présentation de notre projet régional, je tenais à m'adresser directement à vous pour vous dire combien, comme artiste, vous comptez à mes yeux pour la région, l'animation de sa vie culturelle et l'effervescence créative qu'elle doit impulser. Chaque artiste doit être respecté. Notre action régionale a vocation à aider les artistes à créer en toute indépendance, en privilégiant la liberté et le talent sur la logique des circuits marchands. Nous entendons mettre en œuvre un projet ambitieux et totalement novateur. En matière culturelle, la mesure phare sera l'implantation de pépinières d'artistes sur tout le territoire de la région. Ces sites que nous concevrons ensemble seront organisés comme des lieux de vie agréables et des espaces de travail et d'échange. Des artistes de tout âge de notre région y seront accueillis pour plusieurs mois pour y créer en toute liberté, dégager des soucis matériels. Ces pépinières seront reliées à un réseau régional ou interrégional favorisant les synergies toujours fructueuses et les initiatives communes. Des expositions des œuvres de ces artistes seront organisées dans la région et à Paris, dans des lieux prestigieux comme le Grand Palais. Vous l'avez compris, nous souhaitons rompre avec la logique actuelle des fonds régionaux d'art contemporain qui encouragent selon nous trop souvent les circuits commerciaux en oubliant la création artistique proprement dite. Nous voulons donner à tous les artistes, avec ou sans relation, des centres urbains ou des campagnes, la chance de pouvoir nous faire partager leurs œuvres et donc leurs émotions, de nous offrir leur regard sur la vie et leur vision du monde. La création, c'est la vie. Ensemble, faisons de notre grande et belle région une terre de création et d'innovation artistique. Ça va, vous avez bien vomi ?
C'est entièrement faux ce qu'elle raconte.
Ah, bah alors c'est faux, mais en plus c'est plein de conneries. Alors, je vous le disais, le monde de l'art a réagi et a décidé de montrer les dents dans un appel contre la politique culturelle du Front National publié dans l'Humanité mardi. Alors, c'est une lettre ouverte qui est devenue pétition, qui a été rédigée par Pascal Convert, qui est un plasticien et vidéaste. Alors, je suis allée sur la page Facebook qui a été dédiée à cet appel. Il y a la liste des signataires qui a été indiquée ce matin à 8h à 870 signataires. Alors, on trouve tout un tas de gens. Je peux vous en citer trois, histoire de citer quelqu'un. Christian Bolsanski, Daniel Buren. Pour vous dire qu'il y a des grands noms aussi hein, qui se sont alliés à cet appel. On trouve Kader Attia, que moi j'aime beaucoup, qu'on avait pu voir ici au Musée d'Art Contemporain. Alors, il y a quelques doublons dans la liste. On va pas renier cette affaire, mais le nombre reste extrêmement conséquent. Alors c'est vrai que la plupart des signataires s'exposent rarement politiquement hors de leurs œuvres et tous et toutes ne font pas forcément des œuvres politiques. Un plasticien, c'est sûr, c'est plus isolé qu'un comédien, même si la nouvelle génération a su créer des réseaux et des collectifs. Mais c'est vrai que les luttes ne sont pas les mêmes, hein, ce ne sont pas des intermittents, les plasticiens. Mais les plasticiens, s'il y a un truc qui les rassemble, c'est la censure. Ils en ont l'habitude et ils ont l'habitude d'avoir aussi une solidarité, même si elle est moins manifeste que dans d'autres secteurs culturels, comme dans le spectacle. Alors ils subissent hein, constamment les attaques du Front National, tout ça c'est pas nouveau. Hein, même
ah
si,
oui, le nombre d'œuvres d'expo qui sont attaquées par le Front National, c'est incroyable. Quoi.
Alors il y a le rejet de l'art contemporain, l'attaque et les censures pour atteindre aux bonnes mœurs, pour blasphème, il y a la baisse ou les arrêts de financement, il y a les accusations d'élitisme, il y a les discriminations, enfin, hein, tout ça, on connaît. Alors, donc cette réponse, elle est courte, je vais vous la lire. « Madame, que vous preniez la plume pour vous adresser aux artistes quelques jours après les actes terroristes qui ont frappé nos valeurs et nos modes de vie, ne nous donne aucune illusion sur vos intentions à notre égard. Tout est incompatible entre nous et seuls les intrigants, les traîtres et les crédules pourront croire un instant que la liberté de création a un sens pour le parti qui est le vôtre. » Voilà, je ne veux pas tout vous lire, le texte est très très court. En tout cas, eux, ils terminent ce texte en disant « Nous travaillons et créons en France, mais ici comme ailleurs, la liberté de création, c'est d'abord l'ouverture à l'autre, celui qui n'est pas moi, mais qui est égal à moi, quelle que soit sa couleur de peau, sa nationalité, sa religion. » L'intérêt de ce texte, c'est qu'il est court, ça évite aussi les polémiques. Vous savez, c'est difficile parfois de signer un texte quand il est très long, parce qu'il y a des phrases qu'on n'aime pas. Là, les plasticiens, les artistes s'en sont saisis. Alors, tu disais que c'est du grand n'importe quoi, il y a beaucoup d'erreurs. Hein. D'abord, vous aurez remarqué qu'elle tente d'opposer les artistes entre eux, entre le talent supposé de certains et de certaines et la réussite commerciale des autres. Hein, la flatterie, là, n'a pas fonctionné du tout. Alors, elle propose aussi de multiples pépinières sur toute la région. Par contre, elle explique pas comment elle va financer tout ça. Hein. En plus de ça...
Enfin, ça, elle fait comme les autres, elle fait des promesses.
Tout à fait. Sauf que on expliquera juste que quand même, une pépinière, ça s'appelle une résidence. Hein. À l'heure actuelle, ça existe déjà, donc elle a juste donné un autre nom. Et puis elle oublie aussi le tissu associatif, les collectifs hein, qui constituent des lieux de ressources pour les artistes, parce qu'elle explique dans son texte qu'elle va mettre des logements, des ateliers à disposition, bon tout ça, ça se fait.
Ça existe déjà.
Qu'elle va pouvoir leur offrir la disposition de sites internet spécialisés, ça se fait déjà. Enfin bon, elle propose que des choses qui existent déjà. Hein. Voilà. Alors après, le grand délire, c'est d'organiser des expositions d'artistes au Grand Palais à Paris. C'est la réunion des musées nationaux qui fait la programmation. Ce n'est certainement pas la présidente de région, en tout cas c'est ce qu'elle se voit, ou le président de région.
Non mais là elle parle peut-être en future présidente de la République.
Ah peut-être, mais en tout cas là c'est quand même dans son programme de région.
Hein.
Donc là on est quand même dans le grand n'importe quoi. Et puis on aura, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est que du coup il faut aller à Paris hein, quand même pour réussir. Ouais. C'est-à-dire qu'on en revient quand même à ça, à la centralité. Et puis alors quand elle s'en prend aux fonds régionaux d'art contemporain, qui certes sont à critiquer hein, dans leur fonctionnement, en tout cas c'est quand même ça permet quand même de développer une diffusion, la création en achetant des œuvres. Donc elle s'attaque à l'institution, si vous voulez, à l'élitisme justement dont je vous parlais tout à l'heure. Alors elle essaye d'annoncer une politique culturelle pour tenter de rallier ce secteur culturel. D'une manière générale, bon, c'est plutôt raté. Alors c'est vrai que le secteur de l'art et de la culture sont pas forcément à gauche, hein, loin de là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite et le fascisme, ça, il se fait quand même rare. Hein. C'est deux notions. Il faut être quand même très très fort pour les assumer dans ce secteur.
Enfin, quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 40, il y a certains artistes qui ont collaboré avec les fascistes.
C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément à gauche, il faut s'enlever.
On n'est pas à l'abri non plus.
C'est préjugé. Hein. Voilà, je terminerai en disant que le Syndéac a aussi, donc il y a le syndicat professionnel des entreprises du spectacle, a publié un encart dans Le Monde, Libération et l'Humanité qui attaque le Front National. Bon, ils appellent à voter, hein, et de voter responsable aux élections régionale, mais voilà, je voulais vous transmettre cette résistance.
Alors, autre résistance dont il est question, suite au discours de certains élus du Front National dans cette campagne des élections régionales, le discours de Marion Maréchal Le Pen et les propos de Louis Alliot, qui sont candidats au Front National, pour le Front National à la présidence de la région PACA et de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, sur la suppression des subventions versées au planning familial par les conseils généraux. Donc là, ça a bien sûr fait bondir les gens de l'assaut des plannings familiaux. Hein. On rappelle quand même l'objectif. Tout le monde a en tête, pour ceux qui n'ont jamais fréquenté le planning familial, que à cause d'ailleurs de la manipulation de l'extrême droite sur ces 20 dernières années, puisque ça fait longtemps hein, que les plannings familiaux sont critiqués par l'extrême droite, que ça ne sert qu'à encourager la contraception et le droit à l'avortement. Deux choses que déteste une grosse partie de l'extrême droite, celle qui est catholique, qu'on voit, catholique, pour le coup c'est celle qui est présente au FN, hein, mais il y a une autre partie de l'extrême droite, des autres religions, qui ont le même discours, mais qui sont beaucoup moins visibles aujourd'hui. Mais en tout cas, là, c'est la partie catholique qui est porteur hein, de ces idées qu'il faut lutter contre la contraception et le droit à l'avortement. Donc ça fait très longtemps hein, qu'on a ce genre de propos et d'attaques contre le planning familial. Là, c'est aller plus loin avec les déclarations de Marion Maréchal Le Pen et de Louis Alliot. Du coup, réaction communiquée le 27 novembre dernier de la part du planning familial qui s'appelle le Front National montre son vrai visage en région PACA, qui est pas loin d'être vrai, dans l'idée qu'aujourd'hui le Front National sera un parti comme les autres, ce que veut Marine Le Pen, qui tient un discours le plus ouvert possible, le plus soft possible, notamment sur la contraception, notamment sur l'avortement. En fait, dès qu'on creuse, les vraies idées derrière ne sont pas celles qui sont exprimées par la cheftaine, mais ce sont bien tout ce qu'on connaît de l'extrême droite. Donc voilà, il y a eu pas mal de réactions. Du coup, des réactions sous différentes formes. D'abord, une tribune sur le site France TV Info qui s'appelle « En s'en prenant au planning familial, le FN s'attaque à la liberté chèrement acquise de milliers de femmes et d'hommes jeunes et adultes dans leur choix de vie. Une vraie régression. » Ensuite, d'autres militantes féministes ont pris le relais, notamment les membres des GARS, c'est le collectif féministe de Sciences Po Paris, hein, qui a déconstruit un petit peu le discours du Front National, notamment sur les IVG, hein, puisque c'est quand même le truc qui énerve beaucoup le Front National. Voilà, il y a eu comme ça pas mal de réactions. Il y a aussi les Glorieuses, hein, c'est une newsletter qui est dédiée à la condition des femmes à travers le monde, qui a lancé une pétition qui a déjà récupéré 8000 signatures. Enfin voilà, ça veut dire que aujourd'hui les attaques, elles arrivent de partout et ils sont pas encore élus. Donc quand ils seront élus, eh ben il va falloir continuer à résister, parce que malheureusement ils risquent quand même d'être élus dans certaines régions. Et que là effectivement, on va le planning familial et d'autres, hein, on se rappelle dans les villes où les maires sont Front National, tout ce qui était social était sabré, les assos de défense des droits de l'homme par exemple sont exclus, virés quand ils ont des locaux municipaux. Enfin voilà, la lutte ne fait finalement que commencer sur ce sujet-là finalement, mais comme les autres sujets. Et alors on va rester dans les choses en lien avec l'extrême droite finalement et les idées d'extrême droite, même si malheureusement cette idée elle est aussi transversale à certains partis, hein, de l'extrême gauche, on peut le dire, à l'extrême droite, c'est l'homophobie. Donc il y a une action d'une femme médecin qui est homo contre le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, qui une action qui a lieu au Prud'homme. Alors c'est exceptionnel parce que il y a les discriminations que subissent les homos, il y en a régulièrement, mais ça va rarement jusqu'au Prud'homme. En général, ça va plutôt même d'ailleurs en justice des fois, traditionnel. Là, c'est au Prud'homme que ça se passe. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Elle est défendue entre autres, enfin il y a des gens qui l'aident, notamment SOS Homophobie, qui participent à la procédure. Et donc, ils expliquent un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'elle a subi, cette médecin, donc d'une cinquantaine d'années, qui était pas là d'ailleurs à l'audience, qu'elle a des problèmes de santé. Ces faits de discrimination, d'après elle, débutent en 2011, quand elle commence à se plaindre de sa direction. En fait, elle se plaint pas vraiment de la direction, elle pointe de graves dysfonctionnements au sein du service de réanimation dans lequel elle travaille. Et la réponse du patronat, du patron de sa clinique, plutôt que de regarder avec elle les dysfonctionnements et de les résoudre, eh ben ils attaquent celle qui dénonce les dysfonctionnements, et ils l'attaquent par des faits homophobes, par son orientation sexuelle. En plus, c'est un hôpital catholique, du coup c'est peut-être encore plus facile parce que ils sont porteurs de ces idées qui sont malheureusement encore pas mal répandues dans ce milieu-là. Donc alors comment ça va se passer? Elle va subir, bon, il va y avoir plein de ragots, des lettres anonymes, sa compagne qui doit bosser par là-bas aussi, puisque elle va retrouver PD écrit tagué sur sa voiture quand même. Hein, c'est quand même pas mal. Bon, lettre anonyme, menace. Alors jusque là, c'est de la discrimination, enfin des propos homophobes assez classiques. D'ailleurs, la direction ne les réfute pas cela, ce qui est grave quand même. Enfin, qui est grave. C'est-à-dire qu'elle admet qu'effectivement il y a eu des choses, mais que c'est pas elle et qu'elle cherche les responsables. Facile. Par contre, la deuxième partie des faits, et qui sont là beaucoup plus graves, puisque la plaignante dit qu'il y a eu du matériel qu'elle utilise qui a été volontairement saboté pour la pousser à la faute et la faire virer et la faire, la dénoncer comme une mauvaise médecin qui aurait mis en danger la santé de ses malades. Et là, c'est beaucoup plus grave. Et là, la direction, elle dit qu'elle a fait une enquête, mais qu'elle a rien établi. Bizarrement. Donc c'est tout ça qui est en jeu dans ce qui se passe au Prud'homme pour cette dame. On aura la réponse normalement le 25 mars, puisque c'est le jour du délibéré de ce conseil des Prud'hommes. Et alors, en restant avec l'homophobie, un tout petit mot, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais juste dire ce qu'a écrit Pascal Gana, qui est tête de liste Front National dans les Pays de Loire, les Pays de la Loire. Il dit, alors il attaque Sarko, c'est assez marrant. Du coup, c'est une bataille droite-extrême droite, mais on se sert de l'homophobie pour ça. Et il dit, pour rappel, les cathos religieux, alors il critique ceux qui ont voté Sarkozy, pour situer le contexte. Il dit, pour rappel, les cathos religieux et supérieurs de fraternité ayant lancé des appels solennels à voter Sarko, le gender, comme si Sarko défendait cette théorie. Enfin bon, bref, c'est assez marrant. Faisant voter pour celui qui devait voter qui devait donner à la culture un homosexuel. Et oui, il avait nommé Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. Vraisemblablement, le FN l'a toujours en travers. Et donc, il dit, grosso modo, il dit aux cathos, regardez, vous avez incité à voter Sarkozy, il a mis un homo en ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, il a pas pu empêcher le mariage gay. Vous avez confié une partie de la culture et du pays à un gay à cause de Sarkozy. Ne votez pas pour lui. Bref, moi, Pascal Gana, qui suis homophobe, qui suis contre toute union civile, votez pour moi. C'est assez drôle, finalement, et pitoyable de voir l'attaque qu'il fait contre Sarkozy. Ça nous fait toujours plaisir, les attaques contre Sarkozy. Sauf que celle-là, elle n'est pas bonne, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de critiques à faire à Sarkozy. De penser que Sarkozy défend le droit des homosexuels, c'est quand même bien se tromper, parce qu'il l'a jamais vraiment montré. On se rappelle de pas mal de choses qu'il a pu faire et pu mener contre le Pax, notamment. Même si, sous Sarkozy, le Pax a été amélioré par le gouvernement Sarkozy. Mais c'est ça, c'est la différence entre le côté pragmatique des lois qu'on fait pour améliorer les choses et sur lequel on se la raconte pas, et le discours politique qu'on met en avant.
Alors, on va ouvrir une page sur les entreprises. On va commencer avec Facebook, la multinationale. Ça vous dit quelque chose ?
Ouais.
Ça vous cause ? Alors, Facebook est en Belgique. Pou, 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 pou. Bah oui, comme de partout. Et Facebook a menacé hier mercredi de bloquer l'accès à son contenu aux internautes belges non membres du réseau social. Ben, qu'est-ce qui se passe donc, vous allez me dire. Alors le principe, c'est que j'explique, hein, pour ceux et celles qui, comme Laurent, ne connaissent pas bien Facebook.
Exactement.
Oui, non mais oui. Donc ça voudrait dire que les internautes ne pourraient plus consulter les pages publiques sur Facebook.
Voilà, il faut du coup être logué sur Facebook pour accéder aux pages.
Voilà, exactement. Il faut
avoir
être
un compte
connecté dans le français moderne. Facebook répond à sa manière à une décision de justice. Alors c'est une décision qui a été prise le 9 novembre dernier par le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles, qui a ordonné à la multinationale d'arrêter sous 48 heures de tracer les internautes sans leur consentement sous peine d'une astreinte de 250 000 euros par jour. Alors, Facebook est attaqué par la Commission de protection de la vie privée, c'est la CNIL belge, qui reproche donc au réseau social de collecter via les petits cookies, hein, ça aussi ça vous cause, des informations sur des personnes qui n'avaient pas accepté cette collecte, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas, puisqu'une fois que vous êtes inscrit, vous acceptez de fait que Facebook vous espionne. Oui, je vous le rappelle. Quand vous n'êtes pas connecté par un scribe, vous avez le droit de refuser. Sauf que Facebook ne se la joue pas comme ça. Alors Facebook avait prétendu que c'était nécessaire pour des raisons de sécurité. Le juge des référés a dit argument cracra. Facebook a décidé donc de faire appel, mais en attendant, le réseau social doit bien agir et donc lance son chantage. Je vais empêcher les Belges de se joindre au réseau social Facebook, qui est tellement important et tellement mondial qu'il faut absolument y être. Alors, moi j'aimerais, Laurent, te rappeler une petite chose quand même, parce que là on rigole. C'est que tu n'es pas sur Facebook, tu ne souhaites pas être espionné par Facebook, tu n'as rien à faire d'être sur Facebook.
Je les méprise.
Je te rappelle que quand tu te balades sur toute tout plein de sites, et en particulier sur les sites d'information dont je suis sûre tu aimes beaucoup aller chaque semaine pour préparer ce Canu Info, il y a des petits logos Facebook, et ben il y a des petits cookies. Et ben là aussi, Facebook récupère vos informations. Donc en fait, Facebook est partout. Donc ça veut dire qu'il faut se protéger un petit peu de partout et y penser à chaque fois pour éviter les problèmes. Bon, là, l'histoire du chantage, on ne sait pas bien combien de temps ça va durer. Alors on va continuer un petit peu avec les entreprises, et puis on va continuer un petit peu avec les nouvelles technologies. Alors vous savez, ça va être Noël. Vous avez des gosses ? Ouais. Va falloir acheter des cadeaux ? Ouais. Eh ben, je vais vous en parler d'un nouveau jouet. Ça s'appelle Hello Barbie. Alors, c'est pas chinois. Pour l'instant, c'est en vente. C'est aux États-Unis d'Amérique.
Donc, c'est une Barbie connectée.
Ouais, ça coûte 74,99 $.
Déjà, un bel objet jouet sexiste, Barbie, quand même.
Ouais, bon, alors, c'est pas
même s'ils ont essayé de faire attention un peu ces dernières années.
Oui, enfin, voilà, bon, on s'en fout presque de ça, c'est parce qu'on vous l'a tellement dit sur les jouets sexistes que c'est pas le propos ce soir. Donc oui, comme tu le disais, c'est une poupée donc qui est connectée à Internet avec le Wi-Fi ou le Bluetooth. Et alors, il faut savoir que depuis quelques années, ça, Mattel, ça va pas bien. Hein, Barbie, les ventes sont en baisse. Bon, jusqu'à présent, on parlait quand même de milliards de dollars. Hein, donc c'est quand même, je vous rappelle, une multinationale, Mattel. Et l'eau Barbie, c'est censé être le produit qui va relancer les ventes. Je vous rappelle que le concurrent principal de Mattel, c'est Hasbro, qui est vraiment le concurrent absolument qui domine sur certains secteurs. Alors la petite poupée est donc équipée d'un micro et d'un haut-parleur, et donc c'est censé interagir avec l'enfant. Alors Mattel s'est associé à Toy Talk, une entreprise californienne, pour créer cette Hello Barbie. Et il s'avère que dès sa sortie, la poupée a été attaquée, critiquée par tout un tas d'associations de parents d'élèves, dont certaines, certainement, je vous assure, sont très très limites au niveau de c'est quoi être parent aujourd'hui. Je vous ai dit parents d'élèves, par des parents, excusez-moi. Mais Toy Talk nous rassure. L'historique des conversations n'est pas sauvegardé dans le jouet, non, c'est dans le cloud, dans le nuage.
Ce qui est pire.
Donc c'est sauvegardé quand même, d'accord. Les données audio ne sont envoyées au serveur de Toy Talk que quand l'enfant maintient une pression sur un bouton, enfin dès qu'il a le doigt dessus, ça envoie bien des données, et on nous informe que les données conservées ne seront jamais utilisées à des fins publicitaires.
Ah, faut les croire sur parole.
Non, c'est à des fins marketing.
Ah oui. Ah
ouais, je pense que c'est là. Donc on est tout à fait rassuré. Alors d'ailleurs, on est tellement rassuré que Mattel et Toy Talk ont lancé une chasse aux bugs avec une récompense pour ceux et celles qui détecteraient des petits problèmes. Alors on se demande pourquoi lancer un appel à bugs si jamais il y a pas de problème et que tout ça ne peut pas être piraté, parce que c'est bien sûr ça où les associations de parents se sont énervées, c'est que on se demande si tout ça va pas être piraté aussi, de quelle manière. Alors, vous allez me dire, bon allez Delphine, arrête de voir le mal partout, c'est qu'une poupée pour les petits, il n'y a pas de danger, il faut arrêter. Et ben, j'ai trouvé un exemple. Un exemple qu'il ne fallait pas pour le lancement de cette Barbie, c'est un vol de données client chez VTech.
Ah oui, ça a fait du bruit, ça.
Ça a fait du bruit. Tout ça pour vous dire que Toy Talk et Mattel ont beau tenter de calmer le jeu, en vrai, ils doivent grave avoir la trouille, parce que c'est pas bon pour le lancement d'un nouveau produit, surtout quand ils doivent faire remonter les finances d'une multinationale. Alors, il s'agirait du quatrième piratage le plus important de l'histoire. On parle beaucoup ces derniers temps d'Ashley Madison du site de rencontre et de Sony. Et ben, ça ajoute donc VTech. Alors VTech, c'est un des leaders des jeux électroniques pour enfants, l'un des plus grands fabricants de tablettes, de caméras et de jouets en plastique connectés. Et donc ils se sont fait pirater le 14 novembre dernier. Alors plus précisément, c'est les serveurs du Learning Lodge, qui est une boutique en ligne pour télécharger les jeux numériques, qui a été visitée. Alors, la multinationale a confirmé l'intrusion dans un communiqué de presse. Mais évidemment, VTech cherche à minimiser l'impact du piratage et explique que, par exemple, les données bancaires n'ont pas été piratées. Bon, c'est normal parce que c'est pas sur serveur qu'elles sont, les données bancaires. Vous savez, souvent, quand vous êtes sur un site, vous êtes renvoyé sur un autre site derrière, et celui-là, c'est pas celui-là qui a été piraté. C'est vraiment Learning Lodge. Donc, c'est un peu facile de VTech de vouloir minimiser l'impact. Alors, ce pirate a été déçu parce qu'il voit rien dans la presse. Pas d'article, pas rien, rien. Ça l'agace. Alors il a contacté un site qui s'appelle Motherboard, un site spécialisé, pour revendiquer son intrusion qui a finalement été révélée et publiée le 27 novembre dernier. Et ben le groupe ne s'était rendu compte de rien.
Bah ouais.
Rien, que dalle, que dalle. Alors il faut savoir que c'est quand même important, je vous le disais. C'est les données personnelles de 5 millions de clients, les profils de 200 000 enfants qui ont été volés, nom, prénom, genre, date d'anniversaire, adresse postale, mail, mot de passe, photo, échange de chat, des enregistrements audio, tout ça permettant de relier les contacts entre eux, de fournir beaucoup d'informations personnelles sur les parents. Chouette. Alors, notre pirate, qui est un gentil pirate, expliquait qu'il n'avait pas l'intention de publier ou de vendre les informations, que plutôt, ça le rendait malade. C'est ce qu'il a déclaré dans l'article. En face, VTech a déclaré avoir fermé sur le coup la quasi-totalité de ses plateformes, histoire de réparer et de... j'allais dire de plâtrer la faille. Bon, c'est vrai qu'après tout, le pirate, il pourrait nous mentir, hein, dire qu'il a cherché à extorquer VTech, mais a priori, non, ils étaient franchement pas au courant. Et puis, vous savez, aujourd'hui, quand les gens veulent extorquer les groupes, ils le font pas savoir, ils s'adressent directement aux multinationales, ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, même des PM subissent aussi ce genre de choses. Là, a priori, c'est pas le cas. Alors, il faut savoir que le secteur des jeux pour enfants, c'est un secteur qui est très très concurrentiel, ça va très très vite. L'innovation, elle doit sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ça doit pas être compliqué au niveau de l'interface. Là, si vous êtes parent, vous savez que vos enfants, ils n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec des questions de sécurité quand ils ont leurs jouets. J'imagine que pour vous aussi, c'est un peu le cas. Vous ne vous posez pas bien des questions. Bah, vous commencez à vous en poser un petit peu aussi maintenant, parce que l'air de rien, cette affaire avec VTech, elle montre que la Hello Barbie de Mattel, bah, c'est pas si sécurisé ça, et qu'en fait, ça concerne autant les poupées que les chiens et robots que toutes les tablettes. Ça pose quand même quelques soucis, et pour ces fabricants, la sécurité, c'est pas du tout une priorité, et ça touche quand même aussi des données qui touchent à des enfants, donc c'est quand même pas terrible, terrible. Et puis juste rapidement pour terminer un petit peu sur les finances, on a appris par une enquête de UFC Que Choisir que l'Euro 2016, c'était banco pour les hôteliers. Ah ouais, alors ils ont commencé à donner des chiffres ville par ville. Alors pour vous dire, ça Saint-Étienne que les prix explosent le plus dans les hôtels. Ils ont fait une étude pour une nuit, hein, pour deux personnes. Ils ont plutôt été choisis des hôtels dans le haut du panier. Et ils ont été aussi un petit peu freinés puisque un certain nombre d'hôtels étaient déjà réservés et complets, donc ils ont pu se rabattre que sur un échantillon plus petit pour faire leurs analyses. Mais alors à Lyon, donc c'est 85% d'euros, la constatation de UFC Que Choisir. Donc on passe en moyenne de 65 euros à 120 euros le soir du premier match au stade. Ici, à Décines. Donc une explosion, c'est-à-dire 65 euros, il n'y a pas l'euro, 120 euros, il y a l'euro. Ici, dans le coin, c'est l'hôtel Mercure de Charbonnières qui a augmenté le plus son tarif, 207%. Ils se sont pas emmerdés. Et c'est partout comme ça dans toutes les villes.
Pourtant, du coup, ils sont vraiment très loin de Décines.
Ouais, mais en fait, c'est toute la région, voilà, ouais. Donc... c'est un peu comme ça. Alors évidemment, UFC explique aussi que selon la répartition des matchs et selon qui va gagner, bah, tout ça peut changer. Ils se sont intéressés par exemple au site Booking. Il faut savoir que sur le site Booking, vous pouvez annuler vos réservations, donc tout ça peut aussi changer. Et dans quelques mois, les hôteliers pourraient accentuer la hausse ou devoir un petit peu requalifier leurs tarifs. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt banco pour eux.
Bah oui, le foot, c'est toujours du très bon business. On va faire une petite page environnement maintenant et pas du tout parler de la COP21, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure.
Oh bah je sais pas, je m'étais dit peut-être. Non,
j'avais
pas
mis
du
le
tout.
Mot COP21 dans le titre parce que je rappelais que pendant les négociations pourries, hein, s'il en est, de la COP21, les élus et le gouvernement socialiste suppriment la seule invitation qui existait, qui allait être mise en œuvre pour inciter les gens à prendre le vélo plutôt que la voiture. Et ça a été supprimé, cette fameuse indemnité kilométrique vélo, IKV en abrégé, qui a été pas totalement supprimée, mais totalement vidée de sa substance, du coup elle servira à rien. Alors pour mémoire, l'idée de cette indemnité kilométrique vélo, c'était de donner, en fonction de la distance parcourue à vélo pour les salariés, donc sur leur, et qui utiliseraient leur vélo pour aller bosser, donc sur leur on calcule vraiment la distance maison-travail. Et il y avait une indemnité kilométrique dont le montant a été négocié plusieurs fois, revu à la baisse aussi. Donc ça avait été voté lors de la transition énergétique, hein, cette fameuse loi à l'Assemblée nationale le 14 octobre 2014. Le but étant de donner un coup de pouce incitatif aux cyclistes, notamment urbains, pour ces déplacements domicile-travail, qui sont aujourd'hui faits essentiellement en voiture et un petit peu en transport en commun. Ça dépend des endroits. À savoir qu'aujourd'hui, les transports en commun sont largement subventionnés, Directement ou indirectement, les entreprises donnent notamment, payent 50% des abonnements en transport en commun, des choses comme ça. Et les voitures sont subventionnées aussi de différentes manières par différents jeux de primes à la casse qui reviennent, qui s'en vont, d'aides de bonus écologiques à des voitures qui sont tout sauf écologiques. Enfin voilà. Du coup, c'était l'idée, voilà, de faire un truc incitatif pour dire, pour inciter les gens à prendre le vélo. Et ben voilà, c'est à l'ouest, c'est fini, c'est rayé de la carte. Alors on savait déjà que Ségolène Royal, hein, qui est ministre de la destruction de la planète française, préfère est allergique aux mesures écologiques, et pour elle, aider les gens qui achètent des voitures électriques qui sont tout aussi nuisibles à l'environnement que les voitures thermiques, mais ça se voit moins, c'est sa priorité, alors que le vélo, c'est plutôt son ennemi. Donc l'amendement du gouvernement qui modifie ce qui avait été prévu, donc l'amendement à ce projet de loi de finances 2015 qui a été déposé il y a quelques jours, le 27 novembre dernier, qui a été discuté le 30 novembre à l'Assemblée nationale et validé, vide donc complètement ce qui était présent dans cette indemnité kilométrique vélo de plusieurs manières. D'abord, le principal, c'est que c'est plus obligatoire. Donc le patron, il va pas donner de l'argent pour que ses salariés viennent en vélo, hein. Ou alors vous tombez sur un patron écolo, mais il y en a comme, enfin voilà, c'est très rare. Du coup, ça va servir à rien. Ça, c'est le premier truc sur lequel le gouvernement et les élus ont beaucoup reculé. Et deuxième truc sur lequel ils ont beaucoup reculé, l'amendement prévoit de plafonner l'indemnité à 200 euros par an. Donc quelqu'un qui prend un transport en commun, qui habite Paris, combien ça coûte l'abonnement? Ça doit coûter 80-90 euros minimum, un truc comme ça. À Lyon, ça coûte combien d'abonnement par mois?
60, hein, tu sors,
voilà.
C'est 60 euros.
Bon, alors déjà,
hein.
À Lyon, 60 euros par mois pour un salarié qui paye les fameux TCL. Donc son entreprise le rembourse 30%. Il y a 12 mois dans l'année, vous calculez, ça fait 360 euros. Ben, le mec qui vient à vélo, il peut avoir que moins. C'est pas mal quand même comme idée. Du coup, c'est pas du tout incitatif. Du coup, on va continuer à prendre des transports collectifs qui sont toujours mieux que la voiture, mais qui polluent toujours beaucoup plus, enfin, des millions de fois plus qu'un vélo, quoi. Des milliards de fois plus qu'un vélo, c'est pas comparable, hein. Donc, la mesure est morte et enterrée. Et ce qui est intéressant, c'est que les socialistes et les autres, hein, ceux qui ont voté, ils font ça pendant la COP21. Pendant le temps où tout le monde parle, sans en être convaincu, bien évidemment, du réchauffement climatique, ou du vrai terme, ce qui sont le dérèglement climatique, de limiter à 2 degrés, etc., etc. Et tous les partis, tous les candidats, même le FN, a une branche écolo. Alors on la connaît, la branche écolo du FN, elle soutient l'agriculteur productiviste et elle est pro-voiture, du coup, bon. Mais ils sont tous, finalement, aussi menteurs les uns que les autres là-dessus. L'écologie, sauf bien évidemment les Verts, hein. L'écologie, c'est juste un prétexte, c'est juste un faire-valoir, c'est juste un truc qu'on met en avant, mais qu'on n'applique jamais. Et on fait le maximum de lois anti-écologiques, tout en ayant le discours inverse que fait actuellement, ce que font les élus et le gouvernement.
Ouais, moi je voudrais juste ajouter que sur le Citral, pour revenir sur les tarifs des transports en commun, il y a plus de gêne, encore plus. Maintenant, il y a vraiment plus de gêne pour augmenter les tarifs, puisque justement il y a une part entreprise patronale. C'est, je sais pas, moi vous les patrons, ça vous gêne pas de vous faire taxer comme ça alors que ces transports devraient être gratuits? C'est parce que soit vous payez en entier, vous messieurs et mesdames les patrons, parce qu'après tout je vais au boulot et je vois pas pourquoi on me paierait que la moitié. C'est un peu comme si on me payait que la moitié de ma godasse. Enfin, je sais pas, c'est débile. Et puis de toute manière, le Citral n'est plus gêné d'augmenter les tarifs à des degrés absolument hallucinants. 60 euros, rendez-vous compte, quand vous êtes au SMIC, même si on vous rembourse quelque chose, ça reste une somme absolument incroyable. Voilà, et puis de toute façon, ça devrait être une prise en charge
collective. Ouais.
On pourrait aussi ajouter que le budget de l'environnement, il s'est pris une telle claque là, qu'en même temps, je ne sais pas bien ce qui va se passer avec les nouvelles mesures où on répartit les nouveaux budgets. Madame, comment tu l'as appelée tout à l'heure,
la ministre de la destruction de la planète.
De toute façon, elle n'a plus de pognon, là, c'est raté. Ouais,
de toute façon, on ne l'en voulait pas. Un autre aspect, puisqu'on est en train de négocier, comme si on y participait, nous, ils sont en train de négocier une espèce d'accord à la COP21. Un article de l'Humanité aujourd'hui rappelait que pendant ce temps-là, ils négocient aussi TAFTA, Vous savez, TAFTA, c'est un des acronymes, il y en a plusieurs, pour dire le traité de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Négociation que soutient François Hollande. D'ailleurs, il avait déclaré qu'il fallait aller vite avant que les gens aient peur. Pour le citer, bah oui, parce que ça fait très peur. Et l'article de l'Humanité revient sur le fait que c'est marrant que de négocier TAFTA en même temps que la COP21, puisque TAFTA a des effets opposés à la COP21. Grosso modo, le libre-échange augmente la dégradation de l'environnement et notamment le bilan carbone, puisqu'on augmente les échanges et qu'au lieu de consommer local, on consomme international sur des produits qu'on ne trouve pas localement. Il n'est pas question, comme le rappelle l'article, de parler du chocolat, du café ou de la banane. Hein, il est question de parler du bœuf, par exemple, ou de la poule, enfin du poulet, qu'on cultive ici, mais qu'on va aller acheter aux États-Unis d'Amérique. Donc ça va faire un bilan carbone super bas. Enfin, super haut, mais donc pourri. Et donc voilà, il rappelle ça, et cet article est intéressant, parce que il y a eu plusieurs études, du coup, qui ont calculé l'impact environnemental de la viande, des légumes qui viennent d'ailleurs, et qui rappellent qu'effectivement, les transports et le coût en CO2 augmentent quand les légumes la viande n'est pas produite localement. Et alors d'ailleurs, l'article revient aussi sur les chiffres prévisionnels que les experts donnent et qui va vous donner une idée de la catastrophe future de la signature de ce TAFTA, juste sur le plan bilan carbone, hein, on va pas avoir le reste, c'est encore pire sur le reste. D'après ces experts, les exportations agricoles des États-Unis vont s'accroître de 5,5 milliards de dollars avec l'Europe, avec ce traité de libre-échange. Alors, chez nous, ça va s'accroître aussi, mais de 800 millions de dollars. Grosso modo, hein, dans les bilans économiques, l'Europe est toujours perdante. Donc, même du point de vue économique, c'est pas intéressant. Mais alors, du point de vue écolo, ou du point de vue de l'environnement, c'est vraiment une catastrophe, puisque les échanges vont augmenter énormément. Et on ne parle même pas de la qualité de la viande qui va arriver, du saumon transgénique, hein, qui est autorisé aux États-Unis depuis quelques semaines, du poulet lavé avec au chlore, du bœuf aux hormones et tout ça. Donc c'était intéressant de replacer aussi dans le cadre de la COP21 cette négociation du TAFTA. Il y a très peu de mobilisation en France hein, sur ça. Il y a des mobilisations importantes dans certains pays d'Europe et que c'est en train d'être négocié dans notre dos et que nous avons tout à y perdre. Voilà, c'est la fin de ce Canu Info. On va faire un petit agenda. Je ne sais pas si tu as des choses dans l'agenda. Oui ou non ?
Je te laisse y aller. Oui, c'est toi qui fais l'agenda, c'est comme ça.
Alors, ce soir, ça commence dans 5 minutes à l'MJC du Vieux Lyon. Il y a la projection d'un film qui s'appelle « J'ai pas voté ». Et du coup, se poser la question du vote et du changement de système. Hein, le but, c'est pas de condamner ceux qui votent pas, c'est l'inverse. Hein, c'est de proposer un autre système, parce que pourquoi certains vont pas voter ? Parce qu'il y a peut-être des raisons à pas voter pour le système actuel. Donc un débat intéressant, je pense, ce soir à 20h à la MJC du Vieux Lyon. On passe à demain maintenant. Demain, pareil, projection débat intéressant au sujet des violences sexuelles incestueuses. Donc c'est à l'atelier des Canulars, c'est dans le 7e, 91 rue Montesquieu, vers le métro Saxe-Gambetta. Donc c'est à 18h30, projection de deux documentaires, La conspiration des oreilles bouchées, un documentaire de 89, et longtemps après, un documentaire de 2013, donc autour de ces violences sexuelles incestueuse. On passe à samedi. Samedi, rencontre débat d'abord. Il y a beaucoup de choses samedi. Hein. Qui a lieu à la Griffe, donc la librairie qui est rue Sébastien Griffe, dans le 7e métro Saxe-Gambetta. Donc il y a plusieurs choses à la Griffe ce jour-là. À 14h30, un débat sur le Mali, parce qu'ils invitent un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Le Mali rêvé. Et du coup, il va discuter un petit peu autour de son livre du Mali et de la situation actuelle du Mali avec les problématiques qu'on connaît. Et plus tard, à 17h30, une deuxième partie de choses organisées à la Griffe jusqu'à 20h avec la chronique et du coup, la projection d'un documentaire qui s'appelle Les années suspendues, qui c'est une chronique d'une figure de l'autonomie ouvrière en Italie dans les années entre 1960 et 1980, et ça va parler du coup de la question sociale en Italie, puis sûrement avec des conséquences en France. Donc voilà. Pour la Griffe, le même jour, toujours samedi, on est toujours le 5 décembre, à la librairie Terre des Livres, c'est organisé par le Centre d'études postcoloniales de Lyon. Ils changent un petit peu de principe. Cette fois-ci, ils invitent une auteure de BD, ce qui n'est pas arrivé encore de mémoire, ou en tout cas pas souvent, à la librairie Terre des Livres, une BD qui s'appelle De l'autre côté et qui parle effectivement de la décolonisation ou de l'impact de la colonisation. Donc c'est à 15h samedi à la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, dans le 7e. Et puis tu veux peut-être parler de Villefranche.
Non, vas-y.
Bah, c'est le marché solidaire à La Ruche. Donc La Ruche, hein, c'est le local collectif citoyen de Villefranche dans lequel il se passe pas mal de choses. Donc là, comme chaque année, ils font un marché solidaire. Du coup, il y a vente de produits palestiniens, de produits du Chiapas, des peintures, des bouquins, des textiles alternatifs et un peu de musique et de rock'n'roll aussi. Donc voilà, si vous êtes du côté de Villefranche, c'est samedi après-midi entre 14 et 18 heures à le local qui s'appelle La Ruche des Citoyens. Et puis pour aller un petit peu plus loin, la semaine d'après, il nous reste une minute 15, je vais commencer à annoncer des choses, samedi 12 et dimanche 13, on va avoir l'occasion de découvrir Jean Meslier, que je ne connaissais pas, qui est mort en 1729, qui fut le premier penseur de l'athéisme, qui a offert une théorie achevée de l'athéisme, et il y a une pièce qui va être jouée, qui s'appelle Jean Meslier, athée, profession curé. Il y a un petit antagonisme. Adaptation donc de la pièce de Bernard Froutin et de Gilles Rosière. Et puis ensuite, il y a un prof d'histoire des idées, Serge Desruettes, qui vient parler. Et puis ensuite, il y aura un apéro. Ça va avoir lieu deux jours, le samedi 12 et le dimanche 13. Ça sera à la rotonde de l'INSA, sur la fac scientifique de la Doie. 20 Avenue des Arts à Villeurbanne, donc samedi 12 et dimanche 13 à 14h30.
Tout un symbole une telle pièce avec un tel sujet se tienne dans un lieu scientifique où on espère pouvoir y trouver quelques rationalistes.
C'est même plein de rationalistes. Ouf, il y a des zones de résistance. Et le goûter sonore de Radio Canu, le même samedi 12 décembre, on en reparlera la semaine prochaine à 16h30 à la librairie La Griffe. Il reste 4 secondes pour laisser la place à la diffusion en direct, vu que la personne qui rentre à un bel ordinateur, c'est en général pour la diffusion de l'émission de Radio Dio que Radio Canu diffuse une semaine sur deux quasiment. On vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Canu Info.
Ciao.
Et demain pour la prochaine équipe du Canu Info à 19h.
Bonne soirée, bye bye.
Bye bye.